Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouamadou Koumfa pour vous présenter le monde aujourd'hui, édition matinale du jeudi 12 septembre 2024. Voici le sommaire. Le président de Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko Embalo, affirme qu'il ne briguera pas un deuxième mandat, prenant à contre-pied des mouvements qui se sont formés en faveur de sa candidature. Au Nigeria, les inondations dans la ville de Maïdougouri ont fait au moins 30 morts et déplacé plus de 400 000 personnes, selon un bilan provisoire. Au Mali, les autorités de la transition suspendent pour 3 mois la diffusion de la chaîne TV5 Monde. Le chef de la diplomatie américaine et son homologue britannique promettent de répondre d'urgence aux demandes de l'Ukraine qui sollicite depuis des mois des missiles capables de frapper le territoire russe en profondeur. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Georges Léonard Sagno et les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Mais pour commencer, voici le journal. En Guinée-Bissau, le président Oumarou Sissoko Embalo a déclaré mercredi qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat après celui en cours qui s'achève en 2025. Une décision inédite dans ce pays lusophone d'Afrique de l'Ouest à l'instabilité chronique. Rosine Mounezero.
Je ne serai pas candidat en 2025. Mon épouse m'a conseillé de ne pas me présenter. Je respecte donc ses conseils, a-t-il déclaré à des journalistes après le Conseil des ministres. Cette déclaration est inattendue car des mouvements s'étaient formés en faveur de sa candidature. Le terme du mandat actuel et la date de la prochaine présidentielle étant des sujets à controverse. M. Embalo s'est déclaré mercredi opposé à ce que certains de ses rivaux lui succèdent. Ce ne sera ni Domingos Simoes Pereira, ni Nuno Gomes Nabiam, ni Brahima Camara qui me remplaceront, a-t-il déclaré sans préciser son propos. Je ne serai pas remplacé par un bandit, a-t-il dit à propos de ses opposants. Après l'élection de décembre 2019, M. Embalo, général de réserve de 51 ans, revendiquant la victoire, s'était fait investir en février 2020 pour 5 ans à la tête du pays. La communauté internationale a fini par entériner son élection. Mais le résultat du scrutin a donné lieu à des mois de contestation, même après l'investiture, devant les organes de validation.
Au Mali, les autorités de la transition ont suspendu pour 3 mois la diffusion de la chaîne TV5 Monde pour avoir, selon elles, manqué d'équilibre dans le traitement d'une information. La haute autorité de la communication reproche à TV5 Monde d'avoir fait état le 27 août dans son journal Afrique de la mort d'au moins 15 civils dans des frappes de drones à Tinzawaten, sans prendre en compte la version de l'armée malienne. La chaîne regrette cette décision, cette situation, et notamment de ne pas avoir été saisie et de n'avoir pas pu apporter des explications au regard des faits qui lui sont reprochés. Elle a par ailleurs précisé qu'au moment où l'information des frappes de drones avait été donnée par TV5 Monde, l'armée malienne n'avait pas encore donné sa version de faits, et ce, malgré leur sollicitation directe. La version de l'armée a été donnée par la chaîne dans une brève datée du 26 août. Au Nigeria, les inondations massives qui ont submergé en début de semaine la ville de Maïdougouri ont fait au moins 30 morts et déplacé plus de 400 000 personnes. Il s'agit d'un bilan provisoire annoncé hier, mercredi, par les secours. Eric Manirakiza.
Des milliers de maisons ont été submergées mardi par la rapide montée des eaux provoquée par la rupture du barrage d'Alaou sur la rivière Ngada, à 20 km au sud de Maïdougouri. Le vice-président Kassim Chetima, originaire de Maïdougouri, s'était rendu sur place. Selon Zubaïda Oumar, directrice générale de la NEMA, l'Agence nationale de gestion des urgences, environ 40% de la ville sont dévastés. Le bilan pourrait s'alourdir, a-t-elle indiqué, alors que les secours sont toujours à pied d'œuvre. Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu a présenté ses condoléances aux familles qui ont perdu leurs moyens de subsistance à cause du désastre. La capitale régionale dans l'état de Borno, épicentre d'une insurrection djihadiste qui dure depuis plus de 14 ans, est touchée par l'une des pires inondations de ces 30 dernières années, a indiqué l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés au Nigeria. Au moins 107 600 hectares de terres agricoles ont également été endommagés par les pluies diluviennes, ce qui laisse craindre une aggravation de l'insécurité alimentaire.
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a promis hier mercredi une traque sans répit des passeurs qui acheminent les migrants vers l'Europe. Monsieur Diomaye Faye, élu en mars, est confronté à son tour à la succession de tels drames en mer, a appelé les jeunes à rester au pays et ne pas céder à l'illusion d'un avenir meilleur ailleurs. Il a assuré que le gouvernement travaillait d'arrache-pied à des politiques contre le chômage des jeunes. Au moins 35 personnes, selon la presse sénégalaise, ont péri dans le naufrage d'une pirogue surchargée dimanche, peu après son départ du port de pêche de Mbour. Plusieurs autres personnes sont portées disparues. En RDC, une première cargaison de matériel sanitaire est arrivée dans l'Est, région où circule un variant du Mpox qui inquiète les autorités sanitaires internationales. Des vaccins sont annoncés très prochainement dans la même région, Eddy Sango.
5 tonnes de médicaments, kits de protection pour les personnels soignants, gants, blouses, etc. et solutions désinfectantes sont arrivées hier par avion à Goma, ville d'environ 1 million d'habitants et quasi encerclée par la rébellion du M23. Le sceptre d'une contamination d'ampleur y plane depuis plusieurs mois, car des centaines de milliers de déplacés s'y entassent dans la périphérie. Le médecin chef provincial de la santé, le docteur Gaston Lubambo, estime que la plus grande inquiétude concerne les camps de déplacés. Selon lui, 194 cas confirmés ont été enregistrés depuis juin sans aucun décès. Mais dans la province voisine du Sud Kivu, près de 6000 cas et 35 décès ont été signalés depuis les débuts de l'année, soit plus d'un quart du nombre total des contaminations enregistrées dans le pays. La RDC est la plus touchée dans le monde par le virus, 22 000 cas du Mpox et 716 décès irrelatifs y ont été recensés depuis janvier. Des 165 000 doses y sont déjà arrivées par avion à Kinshasa ces derniers jours. Le Mpox touche 14 pays d'Afrique, dont le Burundi, 796 cas, le Congo-Brazzaville, 162 cas, et la République centrafricaine, 45 cas, selon l'Agence des santé de l'Union africaine, Africa CDC.
Les restes de deux Ougandais exécutés il y a 140 ans pour avoir refusé de renoncer à leur foi chrétienne ont été rapatriés de Rome avec d'autres reliques, a indiqué mercredi le secrétaire d'État ougandais aux affaires étrangères. 22 catholiques et 23 anglicans avaient été tués en 1885 et 1886 sur ordre du roi de Buganda, qui fait aujourd'hui partie de l'Ouganda, inquiet de l'influence croissante du christianisme. La plupart d'entre eux avaient été brûlés vifs, d'autres avaient été tués à la lance et au couteau. Les Pères Blancs, une communauté de prêtres et de frères catholiques, avaient envoyé les restes de deux martyrs catholiques à Rome, où ils ont été canonisés dans les années 1960.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie américaine et son homologue britannique ont promis mercredi à Kiev de répondre d'urgence aux demandes de l'Ukraine. Cette dernière réclame notamment de pouvoir frapper le territoire russe en profondeur avec des missiles occidentaux. Alexandrine Holoyon.
Nous travaillons d'urgence pour continuer à garantir que l'Ukraine dispose de ce dont elle a besoin pour se défendre efficacement, a déclaré Anthony Blinken lors d'une conférence de presse, précisant que le président américain Joe Biden et le premier ministre britannique Keir Starmer discuteraient ensemble vendredi de la question. Cette visite du secrétaire d'État américain et de son homologue britannique David Lammy intervient à un moment délicat pour l'Ukraine, ses forces étant en difficulté sur le front Est, malgré une offensive surprise lancée début août dans la région russe de Koursk. Pour faire face à l'avancée russe, Kiev réclame incessamment l'autorisation de frapper plus loin des cibles en Russie à l'aide des missiles longue portée qui lui ont été fournis par les Occidentaux. Le Kremlin a de son côté averti mercredi que la Russie fournirait une réponse appropriée si l'Ukraine était autorisée à utiliser ses armes contre son territoire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait souligné plus tôt mercredi que la victoire de son pays dans cette guerre dépendait essentiellement des États-Unis. Mardi, le Fonds monétaire international a annoncé un accord ouvrant la porte au déblocage d'une nouvelle tranche d'aide de 1,1 milliard de dollars.
Le président du Parlement vénézuélien, Jorge Rodríguez, a proposé mercredi à l'Assemblée nationale d'adopter une résolution exhortant le président Nicolas Maduro, dont la réélection est contestée par l'opposition, à rompre toutes les relations avec l'Espagne où le candidat de l'opposition a trouvé asile. Cette proposition survient après que les députés espagnols ont adopté mercredi une résolution demandant la reconnaissance du candidat de l'opposition, Edmundo González Urrutia, comme président élu du Venezuela. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Georges Léonard Sagnou.
L'Afrique du Sud recevra 200 millions d'euros supplémentaires de la Banque de développement de l'Afrique australe et de la Banque européenne d'investissement sous forme de prêts pour des projets d'énergie renouvelable. Ce montant financera des projets de petite et moyenne envergure, notamment dans l'énergie solaire et éolienne terrestre. Cet investissement devrait permettre d'augmenter la capacité d'énergie renouvelable du pays de 384 mégawatts. L'administration Biden a annoncé mercredi qu'elle allait octroyer 1,3 milliard de dollars d'aide militaire à l'Égypte, selon un porte-parole du département d'État, malgré les conditions strictes liées aux droits humains qui avaient conduit ces dernières années à la suspension partielle ou totale de cette aide. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a informé le Congrès que cette dérogation est justifiée par l'intérêt national des États-Unis. L'OPEP a révisé à la baisse ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2024, désormais estimée à 2,3 millions de barils par jour contre 2,11 millions précédemment. L'organisation a également ajusté ses prévisions pour 2025, réduisant la croissance attendue de 1,78 millions à 1,74 millions de barils par jour.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Salut Yacouba.
Bonjour Mohamedou, bonjour à tous.
Mauricio Pochettino est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football des États-Unis.
L'annonce a été faite par la Fédération américaine de foot. Le technicien argentin, ex-entraîneur de Chelsea, remplace Greg Berhalter. Limogé en juillet, Mauricio Pochettino prend les commandes de Team USA, victime d'une piteuse élimination dès la phase de poule de la Copa América disputée à domicile après deux défaites face à l'Uruguay et le Panama et une victoire contre la Bolivie. La sélection américaine espère afficher un meilleur visage lors de la Coupe du Monde 2026 qu'elle organisera conjointement avec le Mexique et le Canada. Le chantier s'annonce donc immense pour le technicien argentin. Une certitude, il peut compter sur le soutien du coach par intérim, Mikey Varas.
Je pense que la communication avec Mauricio va commencer presque immédiatement et je suis disponible s'il a besoin de quelque chose. En tant que patron, c'est lui qui dirige et c'est de lui que nous recevrons les ordres. Quant à moi, nous verrons bien. Pour l'instant, je ne pense qu'à la façon dont nous jouons. J'essaie d'analyser le jeu et d'aider la Fédération américaine de football à aller de l'avant.
Mikey Varas, entraîneur intérimaire des États-Unis. Aucun détail sur la durée du contrat de Mauricio Pochettino n'a été donné. Il prendra ses fonctions pour les matchs amicaux contre le Panama le 12 octobre à Austin dans le Texas et contre le Mexique trois jours plus tard. En compétition, il sera aux commandes lors du quart de finale aller-retour de la Ligue des Nations de la CONCACAF. En novembre, l'Argentin est le 10e entraîneur de Team USA en 14 ans. Il est le deuxième non-américain à être nommé à ce poste après l'Allemand Jürgen Klinsmann, parti en 2016.
Le litige entre Kylian Mbappé et son ancien club, le PSG, est parti pour durer.
Oui, le nouvel attaquant du Real Madrid a rejeté la médiation proposée hier par la Ligue de football professionnel qui l'avait saisie pour récupérer 55 millions d'euros de salaire et primes impayés par le Paris Saint-Germain. Les avocats des deux parties étaient réunis à l'invitation de la commission juridique de la LFP, saisie par l'ancien joueur du PSG, parti au Real Madrid cet été. En début d'année, avant la décision du joueur du parti, les deux camps avaient affirmé que Mbappé avait renoncé à une partie de ses primes dans un accord passé avec le PSG en août 2023, après sa mise à l'écart de l'équipe durant un mois. Mbappé demande le versement d'une somme de 55 millions d'euros, qui comprend l'ultime tiers d'une prime à la signature, 36 millions d'euros bruts, que le joueur était censé toucher en février, les trois derniers mois de salaire prévus dans son contrat avril-mai-juin, ainsi qu'une prime éthique sur trois mois. Selon le club, cette demande du joueur revient à ne pas respecter l'accord passé en août 2023. La commission va trancher demain vendredi.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamedou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Djibouti a proposé de co-gérer un port stratégique avec l'Éthiopie, dont l'accès à la mer reste une source de conflit avec la Somalie. Paul Simon Handy, directeur de l'ISS, l'Institut d'études de sécurité basé en Afrique du Sud, nous éclaire sur les enjeux et les solutions possibles pour apaiser ces tensions. Il répond aux questions d'Eric Manirakis.
Il faut distinguer deux choses. L'Éthiopie est jusqu'à présent très dépendante de Djibouti pour son accès à la mer. Les importations de l'Éthiopie passent presque à 85% par Djibouti, par le port de la capitale. Ça crée une situation de dépendance qui est insoutenable sur le long terme. Donc l'Éthiopie a donc un souci qui est justifié de diversification de ses accès à la mer. Mais le deuxième point, qui je crois est un grand point de désaccord entre les différents pays de la Corne, est que le mémorandum d'entente entre l'Éthiopie et la République non reconnue de Somaliland prévoyait aussi la cession d'une partie du territoire du Somaliland pour une base navale éthiopienne, dont littéralement un bout de terre de Somalie qui devait obtenir la souveraineté éthiopienne, ce qui a causé l'ire de l'Éthiopie, et puis il y a eu toute une escalade avec l'implication de l'Égypte et tout un ensemble d'initiatives qui ont plutôt eu tendance à aggraver la situation qu'autre chose.
L'Éthiopie, dans sa quête d'accès à la mer, notamment à travers l'accord controversé avec le Somaliland, il s'agit d'un intérêt militaire, n'est-ce pas? Quel impact cela pourrait-il avoir sur les relations éthiopiennes avec ses voisins, en particulier Djibouti et la Somalie?
Il y a une ambition que le Premier ministre a toujours eue de remettre sur pied la marine éthiopienne qui avait été démantelée après la séparation avec l'Érythrée. Parce que lorsque l'Érythrée a eu son indépendance, c'est tout le versant côtier de l'Éthiopie qui disparaissait. L'Éthiopie se retrouvait du jour au lendemain être un pays enclavé. Mais pour qu'une marine vive, il faut qu'elle ait un accès à la mer, il faut qu'elle puisse avoir des bateaux, il faut qu'elle puisse circuler et assurer la protection des côtes qui, en général, sont les siennes. Donc, ceci pose un gros problème à l'ensemble des pays de la région pour trouver un compromis qui allie à la fois les intérêts éthiopiens et les intérêts des autres pays de la région.
Quelle solution potentielle pourrait donc émerger pour et résoudre les tensions autour de l'accès maritime de l'Éthiopie?
C'est pour ça que la proposition djiboutienne est originale, parce qu'elle permet de résoudre le problème commercial, économique éthiopien, d'accès, de diversification de sources d'approvisionnement par la côte. Elle adresse aussi la question de la co-souveraineté ou de la souveraineté partagée, mais elle met en veilleuse la question d'une base militaire. Donc, dans l'immédiat, une solution de court et de moyen terme serait pour l'Éthiopie de renoncer pour le moment à ses ambitions. En quoi il est justifié de soutenir les ambitions sécessionnistes du Somaliland dans une région qui a déjà connu des successions, notamment l'Érythrée et le Soudan du Sud, qui ne peuvent pas être considérées comme de grandes réussites?
C'était Paul Simon Handy, directeur de l'ISS, l'Institut d'études de sécurité.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Burkina Faso, une organisation des droits de l'homme a récemment lancé une application permettant de dénoncer des cas de corruption dans le pays, une initiative saluée par les structures de lutte anticorruption. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
C'est Stop, Corrupt Stop, autrement, est la nouvelle application de lutte contre la corruption au Burkina. L'application comporte quatre grandes articulations, des quiz, des podcasts, des vidéos et des documents divers. En plus du français, C'est Stop est disponible en trois langues locales, le Moré, le Dioula et le Fulfulde. Une organisation des droits de l'homme est à la base de la création de l'application.
C'est vrai, il y a des lois qui ont été votées. Un décret a été pris récemment pour permettre aux personnes de procéder à des dénonciations. Mais vous savez, en la matière, il n'est jamais trop de trouver encore un canal par lequel on peut sensibiliser davantage la population afin qu'ensemble, une fois qu'on est tous informés, chacun pourra y prendre garde et donc éviter donc de se lancer dans ce phénomène. Nous avons choisi donc de mettre en place une application dénommée C-Stop qui permettra à tous citoyens d'aller sur cette application, à travers des jeux, découvrir les lois qui existent, les textes qui existent en matière de lutte anticorruption, et donc d'aller jusqu'à pouvoir même dénicher les structures nationales qui sont habilitées à recevoir les plaintes, ainsi de suite.
Les organismes de lutte anticorruption saluent le lancement de cette application.
C'est une belle initiative qui va certainement amener un plus à la lutte anticorruption, parce qu'elle diversifie donc, cette plateforme diversifie les façons de faire, les façons de voir, tout en apportant du contenu scientifique, des connaissances sur la lutte anti-corruption que chacun peut transporter sur lui dans son petit portable et pouvoir faire référence à tout moment, même sur la voie publique. Quand on est confronté à un cas de corruption, on peut se référer à une loi sans avoir besoin d'aller au bureau ou bien d'aller consulter un spécialiste.
L'Organisation de défense des droits humains, initiatrice de C-Stop, a bénéficié du soutien du NDI, le National Democratic Institute, qui permet de suivre les politiques publiques en matière de lutte contre la corruption. Des cas de corruption sont fréquents au Burkina et des rapports du Réseau national de lutte anticorruption ont plusieurs fois accablé des personnalités et autres organisations. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En Afrique de l'Ouest et du Centre, plus de 14 000 écoles ont fermé cette année 2024 en raison de la violence et de l'insécurité affectant des centaines de milliers d'enfants. Cette crise, particulièrement sévère dans les pays sahéliens comme le Burkina Faso et le Mali, ainsi qu'au Cameroun et en RDC, compromet gravement l'accès à l'éducation. Eric Manirakiza s'est entretenu avec Christelle Huret, responsable de l'unité plaidoyer, communication et médias au bureau Afrique de l'Ouest et du Centre du Conseil norvégien pour les réfugiés.
Alors, principalement, on observe surtout trois raisons pour lesquelles les écoles sont ciblées par les groupes armés. La première, c'est l'expansion du territoire. La deuxième, c'est le fait que les écoles représentent un symbole d'autorité et représentent les États. Et la troisième, qui est un peu plus rare, c'est le fait que l'éducation formelle aille à l'encontre de l'idéologie de certains groupes. Donc au Sahel et notamment au Burkina Faso et au Mali, les fermetures d'écoles, elles sont en grande partie dues à l'expansion des groupes armés non étatiques qui occupent des territoires et du coup mènent des attaques systématiques contre les infrastructures civiles, y compris les écoles. Après, ailleurs en Afrique centrale, notamment en RDC, c'est plutôt à cause des tensions intercommunautaires et la présence de groupes armés divers qui perturbent l'éducation avec des écoles qui sont même parfois utilisées à des fins militaires.
Quels impacts spécifiques cette crise éducative a-t-elle sur les enfants dans des zones touchées ?
Alors les conséquences sont dévastatrices. Non seulement les enfants sont privés de leur droit à l'éducation, bien sûr, mais ils sont également exposés à de nombreux risques en termes de protection. On observe un risque accru en termes de recrutement forcé par les groupes armés, d'exploitation sexuelle, de travail des enfants et d'autres formes de violence. Les filles sont particulièrement vulnérables face aux fermetures d'écoles. Lorsqu'une école ferme, les filles vont être davantage exposées aux risques en termes de violence sexuelle, mais il y a aussi des risques de mariage forcé et d'exploitation. Souvent, le fait d'aller à l'école pour ces filles représente la meilleure protection contre ces risques. Après, bien entendu, sur le long terme, le fait que des millions d'enfants ne puissent pas avoir accès à l'éducation, ça vient compromettre l'avenir de toute une génération, ce qui va avoir des répercussions socio-économiques majeures pour les communautés. Et enfin, beaucoup de ces enfants qui ne vont plus à l'école ont aussi été traumatisés par ce qu'ils ont vécu et par les attaques contre les écoles. Et donc, pour pouvoir recommencer à apprendre, il doit y avoir un accompagnement psychologique fort.
Quelles sont les recommandations du Conseil norvégien pour les réfugiés, pour les autorités locales et les organisations internationales, afin d'améliorer l'accès à l'éducation malgré cette insécurité croissante?
Alors, le Conseil norvégien pour les réfugiés, aux côtés d'autres organisations actives dans le domaine de l'éducation, appelle d'abord toutes les parties au conflit à cesser immédiatement les attaques contre les écoles, à respecter le caractère neutre des écoles, notamment en mettant fin à l'occupation militaire. Et on appelle également la communauté internationale à faire respecter le droit international humanitaire en la matière qui protège les écoles. Ensuite, il y a besoin, bien entendu, de plus de financement de la part des bailleurs, mais aussi de la part des gouvernements de la région pour financer les programmes d'éducation dans les zones particulièrement touchées par les conflits, aussi pour financer l'éducation à distance si les écoles ne peuvent pas réouvrir, pour financer...
Christelle Huré, responsable de l'unité plaidoyer, communication et médias au bureau Afrique de l'Ouest et du Centre du Conseil norvégien pour les réfugiés.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad sur 93.1 FM.
La 9e conférence de la coopération sino-africaine s'est achevée la semaine dernière à Pékin avec l'annonce d'un engagement financier de l'ordre de 50 milliards de dollars de la Chine en faveur de l'Afrique au cours des 3 prochaines années. Comment l'Afrique peut-elle mieux profiter de cette coopération avec la Chine? Élément de réponse depuis le Niger dans ce reportage de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Bien que vieille de plusieurs décennies, la coopération entre la Chine et le Niger doit, dans le cadre de la dynamique de reconquête de la souveraineté engagée par les autorités militaires de transition, désormais répondre à de nouvelles exigences selon des citoyens.
Il faut qu'on aille vers l'industrialisation du pays. Il faut qu'on aille vers l'industrialisation, la mécanisation, la modernisation de l'agriculture et de la transformation aussi des produits qui seront générés par l'agriculture. Donc, en faisant ça, nous allons forcément aussi créer des emplois et qui vont absorber le chômage des jeunes.
Dans le secteur éducatif, le Niger doit s'inspirer du modèle chinois qui a été un modèle qui s'est appelé sur la nécessité d'apprendre ce que l'Europe et l'Amérique a eu à apprendre et de vouloir maintenant booster l'industrie locale. Donc nous aussi, pour pouvoir sortir de cette spirale quotidienne de dépendance, il faudrait que nous nous inscrivions dans une logique de transfert de technologie. Et c'est ça qui va nous permettre vraiment de sortir de l'ornière et d'aller vers l'exploitation nous-mêmes de nos ressources minières.
Selon l'économiste Dr Chérif Chako, des pays comme le Niger ont une large palette d'opportunités à saisir dans la coopération avec la Chine pour aller vers la prospérité.
La frontière des possibilités de production pour le Niger, c'est dans le secteur agricole. Et avec les grands aménagements que le chef de l'État a donné comme ligne de conduite, je crois qu'on peut développer ce genre de la grande irrigation pour pouvoir profiter des ressources. La deuxième phase où on peut profiter de ces ressources, c'est le développement des ressources humaines, que ce soit dans la santé, et surtout dans l'éducation. Donc il y a les deux secteurs que je vois qu'on peut valablement utiliser les ressources, quel qu'en soit leur volume, pour pouvoir accroître la frontière des possibilités de production.
L'occasion du sommet de Pékin a été saisie par le Niger, le Burkina Faso et le Mali, réunis en Confédération des États du Sahel, de réaffirmer la vision souverainiste qui a cours dans les 3 pays en matière de coopération.
Nous ne sommes pas venus pour tendre la main. Nos pays regorgent énormément de ressources, des ressources humaines, des ressources naturelles. C'est de voir comment, avec ce grand pays, la Chine, qui a 3 qualités essentielles, c'est-à-dire l'effet positif de leur révolution, le changement de leur mentalité, l'ordre et la discipline, et le travail.
La Chine est le premier partenaire commercial du continent africain. Au Niger, elle est présente dans divers secteurs tels que ceux des mines et des infrastructures. Aussi, elle exploite le pétrole et permet au pays, depuis le début de cette année, d'exporter du brut à travers un oléoduc de plus de 2000 km. Abdul Razak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey.
Et c'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Au micro, Mohamedou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.